Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et dans cette semaine qui nous a conduit de Bretagne au plateau de Millevaches puis Firminy-Vert, nous voici conduits par Meta Chiteya à considérer autrement un lieu souterrain, parfois oppressant, le métro parisien. Elle dit « Je l'ai entendu pour la première fois un soir, tard, en rentrant à la maison, sur la ligne préférée des accordéonistes du métro. Une voix nue, grave et nostalgique m'a tirée de ma rêverie pour me plonger dans la sienne. J'ai cherché du regard l'origine de la musique et j'ai trouvé cette petite silhouette plantée parmi les gens. Son visage était bouleversé et bouleversant. Concentré sur l'intensité d'une chanson de Tracy Chapman. En recevant de ma main tout ce que contenait mon portefeuille ce jour-là, elle me fixa droit dans les yeux, me dit merci, me serra dans ses bras et descendit de la rame. Je la guettai impatiente dans les mois qui suivirent, jusqu'au jour de décembre 2010 où...
Madame, Monsieur, bonsoir, chanteuse. J'aimerais vous chanter pour commencer une belle chanson de Tracy Chapman. Baby, can I hold you? Merci.
Des rues de Soweto au couloir du métro, le chant libre de Meza.
It's all that you can say. A year's gone by. And still, and words don't come easily. Oh, like sorry.
Le métro parisien est un univers souvent pénible. Ses rames bondées, ses problèmes techniques, ses passagers fatigués et irascibles, et ses innombrables accordéonistes qui vous infligent inlassablement leurs refrains immuables. Autant de clichés qui font le quotidien des usagers. Quelques bonnes surprises aussi parfois, comme le soir où j'ai entendu pour la première fois la voix de Meza. Après quelques semaines, je me surprenais à guetter cette voix rauque et ses chansons douces. J'ai fini par faire sa connaissance, elle m'a raconté son histoire, ses origines sud-africaines, son amour de Paris. J'ai eu envie de remonter le cours de cette vie-là, parmi toutes celles qui ont mené tant d'artistes à choisir le métro pour scène. À travers ses espoirs enfantins et ses paradoxes, Meza se régale du grand cadeau qu'elle a reçu à 20 ans, la liberté.
If I told you the hour, ooh, when the right time, you'll be mine. I love you.
Je m'appelle Meza Lengezele, j'ai 36 ans et je viens de l'Afrique du Sud, Soweto exactement. Et puis je suis ici à Paris, ça fait 3 ans, mais... J'ai vécu à Paris avant. La première fois que je suis arrivée à Paris, c'était en 1998. Et puis, bah oui, c'était pour un rêve français.
Alors, quel était ce rêve?
Mon rêve, c'était de venir à Paris, bien sûr, pour découvrir Paris, la France. Apprendre le français, justement pour essayer d'aller à l'université comme la Sorbonne, sur tout ça, c'était un très très grand rêve. Vivre la culture française, parisienne, l'ambiance parisienne, la vie parisienne, dans toutes ces mystères, ces choses.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en France?
Bon, à l'école en Afrique du Sud, j'ai étudié le français. C'était un de mes sujets pour le bac. Et puis, je pense que c'est mon prof qui m'a donné le goût. Hein. Puis, quand j'ai étudié les poètes populaires et tout ça, j'ai pris goût. Et puis, je me suis dit, waouh, il faut qu'un jour... Je vais à Paris, mais surtout retourner en Afrique du Sud, encourager les jeunes Sud-Africains pour apprendre le français comme une langue étrangère. Ouais, c'était surtout ça. Au début, je faisais les petits boulots par là, par ci, surtout dans ce qui m'intéresse aussi, c'est l'esthétique, maquillage, les ongles, tout ça. Je faisais un peu de ça par ci, par là, mais avant de repartir, j'ai chanté dans le métro. Et puis, au début de mon retour, je me suis dit, il faut que je ne fasse plus ça. Quelque part aussi, j'avais un petit honte de chanter dans le métro. Je me suis dit, oh, c'est pas bien pour une jeune fille comme moi, mais j'ai quand même aimé ça. Et puis, dans un coup, j'ai dit non, je m'emballe. Je m'en fous, je vais retourner chanter dans le métro. Excuse-moi, ça c'est pour ouvrir la gorge. Tellement je chante tout le temps, des fois j'ai l'impression mes voisins. Oh, c'est elle, elle a commencé encore.
Alors il est 4h de l'après-midi. Dans une heure, vous serez dans le métro en train de faire votre boulot et d'aller chanter. Vous vous préparez avant d'aller chanter?
Oui, je me prépare. Je sais que j'adore faire ces... J'écoute toutes les chansons de mon répertoire. Mon préféré, bien sûr, ce qui est Tracy Chapman. Et je pense maintenant beaucoup de gens qui me connaissent déjà dans le métro. Bon, la plupart m'appellent Tracy Chapman quand ils me voient parce que souvent je chante Tracy Chapman. Quand je entre, j'ai mes habitués qui me connaissent déjà, qui sont contents de me voir parce qu'ils savent que, oh, on rentre du boulot, on est fatigué. Et au moins, il n'y a personne qui va chanter quelque chose très doux, très calme, qui ne va pas nous bousculer l'esprit, qui va nous relaxer hein, tout court.
Et alors, en tout, vous restez combien de temps dans le métro? Vous chantez tous les soirs?
Pas tous les soirs, peut-être sur 7 jours, 5 ou 4.
Ça vous prend combien de temps dans la soirée?
5 heures.
5 heures?
5 heures.
De quelle heure à quelle heure?
La plupart, quand je commence à 19h du soir, je finis à minuit. Et puis, quand je commence à 20h, je finis à 1h du matin.
D'accord. Et oui. Vous êtes toujours sur la même ligne ou vous changez un petit peu?
Toujours sur la même ligne, la ligne 6, que c'est mon préféré parce que les gens me connaissent déjà et je suis habituée avec ça. Et puis, c'est à côté de la maison. Et puis, j'aime bien cette ligne parce que les gens sont vachement ouverts d'esprit, sont cool. C'est une ligne qui est aussi aérienne. Merci. Donc,
les gens sont plus ouverts d'esprit sur la ligne 6 que sur les autres lignes de métro?
Je trouve, oui. J'ai déjà essayé les autres, mais l'ambiance, c'est pas la même chose.
Et alors, pour avoir une idée, en gros, une bonne soirée, vous gagnez combien?
Ah, ça dépend. Hein. 70 à 80, une bonne soirée. Une soirée normale, 50. Il y a un moment quand tu vois, il y avait la crise. Et tout le monde avait ça dans la tête, donc c'était vraiment serré. Les gens disaient, oh, c'est la crise, on ne donne rien du tout. Mais les gens sont... Donc ça dépend de ce qui se passe dans le monde.
Et des fois, on vous demande des chansons?
Oui, des fois, les gens sont tellement... Bon, les week-ends, moi, je trouve les week-ends sont chouettes parce que les gens sont gays, ils sont dans l'ambiance de fête. Les jeunes me demandent, oui madame, tu peux nous faire ça, tu peux nous faire ça. Oui, moi j'ai entendu cette dame, elle chante Bob Marley. Madame, on peut chanter Bob Marley.
aller ensemble. Oui, et puis les gens sont dans l'ambiance ensemble. Les jeunes, oh madame, franchement, c'est super. Oh, bah, arrête, attends, je vois si j'ai quelque chose pour vous, madame. Mais les gens sont super sympas. Moi, je trouve. Moi, j'aime bien.
Ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser dans le métro?
Oui. Une fois, je me suis fait agresser par un jeune. Je ne sais pas qu'est-ce que je pense. C'était une nuit blanche, je pense, cette nuit-là. Puis j'ai chanté une chanson de Bob Marley. Et lui, il voulait forcément que je chante Michael Jackson. Parce que je pense qu'il avait m'entendu chanter Michael Jackson. Il dit, si tu ne chantes pas Michael Jackson, je vais casser ta gueule. Puis il a fait. Hein. Il a vraiment cassé ma gueule. M'a frappé sur le visage. C'était une fois et je pense la dernière fois j'ai eu une mauvaise expérience dans le métro. Mais en général, c'est, les gens sont vachement sympathiques. Oui.
Steady, no more, no more.
Il y a une photo juste sur votre mur, au-dessus de la chaîne Ifi. C'est une photo, elle est à vous la photo?
Oui, c'est à moi, mais c'est ma mère. C'est pas moi sur la photo, c'est ma mère. Et celle-là qui est à côté, c'est moi et mon fils. Avant que j'ai quitté l'Afrique du Sud pour la première fois. Voilà.
Oui,
il était tout petit, il avait 4 ans ici. Vous voyez? Toute mimi.
Joyce, vous êtes la maman de Meza, vous êtes à Soweto à l'heure qu'il est. Vous avez accepté de répondre à quelques questions concernant votre fille. À quoi ressemblait l'enfance de Meza?
No, Meza, she was a very brilliant child.
Meza était une enfant brillante. Elle montait à cheval à 11 ans. C'était une bonne nageuse. Elle faisait du théâtre à l'école. Elle était très active. Elle a été la première petite fille de Soweto à monter à cheval. Et elle chantait. Elle a aussi participé à un concours de beauté. Elle a été élue Miss quand elle avait 8 ans. Elle chantait dans le chœur de l'école, elle chantait beaucoup. Mais moi, en tant que mère, je lui disais, non, Meza, tu ne sais pas chanter. On dirait, soit que tu parles, soit que tu pleures. Mais aujourd'hui, c'est une bonne chanteuse.
Vous avez 36 ans, ça veut dire que vous aviez une vingtaine d'années lorsque l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là?
De l'apartheid? Oh, je me rappelle souvent quand on allait en ville, les endroits principaux où on pourrait faire les shopping, c'était que les blacks qui allaient là-bas. C'était vachement, vraiment à part une vie des Européens ou blancs ou vie des blacks ou africains. C'était vraiment, vraiment différent. Moi, j'ai aussi eu l'opportunité d'aller dans les écoles de blancs. Très jeune, parce que ma mère voulait que j'aille dans les écoles de blancs. Il y avait certaines écoles de blancs privées, semi-privées, où les Noirs pourraient aller faire les études. C'est là où, justement, j'ai étudié le français, parce que certaines écoles donnaient le cours de français. Pas tout. C'était pas tout le monde qui pourrait avoir cette opportunité. Et puis, mais quand bien sûr, le système a changé. Ça veut dire beaucoup de jeunes, même mes sœurs, sont partis dans les écoles publiques de blancs. Je me rappelle surtout maintenant les moments de fête. Ça veut dire
où, surtout à Soweto, toute la rue, les maisons faisaient des gâteaux et tous les enfants de la communauté pourraient aller dans n'importe quelle maison pour manger, pour fêter, pour souhaiter tout le monde, chacun de bonnes fêtes, tu t'assois, tu manges, même si vous ne faites pas partie de la famille, il y avait cette solidarité-là. C'est ce qui faisait la force du Soweto, de l'Afrique du Sud. Les gens étaient très, 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 très solidaires dans tout ce qu'ils faisaient. Tout n'était pas parfait et rose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu les gens qu'ils aiment beaucoup dans tout ça. Par exemple, il y a les gens que la police, ils ont tués et kidnappés et cachés dans les endroits que même les jours d'aujourd'hui, leurs familles ne connaissent pas où ils sont disparus. Donc,
vous avez perdu quelqu'un, vous, dans ces violences-là?
Oui, moi, j'ai perdu mon frère quand même. La police, c'est la police qui a quand même tué mon frère.
Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre frère?
Mon frère est tué par la police parce qu'il était considéré comme un gangster et tout ça. Et puis, mais à l'époque, il n'y avait pas de droits. Ça veut dire que la police pourrait tirer sur n'importe qui, n'importe qui. Comment, n'importe quand. Ça veut dire que tu es black, jeune, beau, il te tire dessus, tu meurs, et puis c'est fini, basta. Il était dans une voiture, il a fait fuite parce qu'il savait que c'est la police qui lui suivait. Et puis, quand il l'a attrapé, quand il est sorti de la voiture, il a mis ses mains en haut comme ça, ils l'ont tiré dessus. Et puis, il est mort comme ça. Mais souvent, les jeunes sont tués comme ça. Souvent, à l'Afrique du Sud. Souvent, à ce moment, c'est comme ça. La police tue. Tuer, c'est comme manger.
En 1994, à 20 ans, Meza donne naissance à son fils Mbusso. 1994, les Noirs d'Afrique du Sud deviennent citoyens de leur pays. Pour la première fois, Meza est libre de voyager.
Il n'y a plus de doute possible, Nelson Mandela sera le prochain président sud-africain. Hier soir, dans un grand hôtel de Johannesburg, le président de l'ANC s'est adressé aux militants de son parti et à tous ses partisans.
C'est l'un des moments les plus importants dans la vie de notre pays. Je suis là devant vous, rempli de fierté et de joie, tous dans ce pays. Vous avez montré une détermination si calme, si patiente à reconquérir ce pays comme le vôtre, que nous pouvons crier sur tous les toits, libres enfin.
Qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ça? Vous étiez où quand ça s'est passé, ça?
J'étais en Afrique du Sud. Quand Mandela a été libéré, j'étais en Afrique du Sud. D'entendre ça, ça m'est... Parce que moi, j'ai aussi voté pour la première fois en 1994. C'était vraiment un des moments où le pays était joyeux, mais à fond. D'antan Mandela dit ça, qu'on a reconquéré le pays dans le calme. C'est ce qu'on a vraiment fait.
Les choses ont spectaculairement changé. Soweto est un endroit très agréable. Depuis la fin de l'apartheid, les choses ont changé. Il y a des gens aimants et chaleureux à Soweto. Les gens se sont pris en main depuis la fin de l'apartheid. Je pense que les touristes devraient aimer Soweto aujourd'hui.
Vous avez connu l'époque de l'apartheid. Comment vous viviez sous l'apartheid ?
C'était le chaos. La police ne nous traitait pas bien. Il y avait des endroits pour les blancs seulement ou les noirs seulement. C'était terrible. La police battait et tuait les gens. Beaucoup de mauvaises choses arrivaient du temps de l'apartheid.
Donc maintenant, vous trouvez que Soweto est un endroit agréable à vivre pour les personnes noires ?
Absolument, et pour les blancs. Aussi bien les noirs que les blancs.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
Toute ma famille est à Soweto. Tout le monde est. J'ai une très très grande famille et une famille très très gentille, merveilleuse, qui me soutient, qui m'encourage dans mes rêves. Et mais ça arrive que des fois ma famille me manque beaucoup. Beaucoup, beaucoup, surtout mon fils. Ouais.
Vous avez donc un fils. Quel âge a-t-il ?
Mon fils, il a 16 ans cette année. Et on peut dire que je lui ai quitté depuis il a 4 ans. Parce que pour la première fois, oui. Et puis c'est très, très dur.
Vous l'avez laissé à Soweto. Il habite où, votre fils ?
Mon fils habite avec ma mère. C'est ma mère qui m'aide à lui élever. Et puis, il est aussi avec mes sœurs, mes deux petites sœurs, qui m'aident aussi beaucoup. J'ai fait des sacrifices à cause de mon rêve. Deux fois, oui, c'est vrai, je paye pour ça. Parce que des fois, c'est très, très, très dur sur moi. Mais j'espère un jour, je vais avoir l'occasion de lui faire comprendre. Mais je suis souvent en communication avec lui par téléphone et tout ça. Mais bon, c'est pas pareil, mais j'essaie de faire avec.
Quand on vous entend raconter votre famille, Mesa, à part votre fils, on n'entend pas parler d'homme. Vous avez un père, je suppose, et puis je suppose que votre fils a un père aussi.
Oui, j'ai un père, il est vivant, mais on n'est pas très proches. La plupart du temps, ma mère nous a élevés seuls. Mon fils, il a aussi un père, oui. Mais là, son père est décédé. Mais lui aussi, il faisait pas vraiment partie de la famille, de ma famille. C'est plutôt les femmes en Afrique du Sud, vraiment la plupart du temps, qui élèvent les enfants seules. Souvent, le père n'est jamais présent. La mère joue un jeu principal pour la famille en Afrique du Sud.
Mesa est partie en vous demandant de prendre soin de son fils. Comment avez-vous réagi ?
Au début, ça a été très douloureux pour moi parce que je perdais une fille. Je n'avais plus que trois filles parce que mon fils est né et mort. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à élever son fils. Et tout s'est bien passé. On s'est habitué au fait qu'elle était partie à Paris.
Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle partait ? Est-ce qu'elle vous a exposé ses raisons ?
Elle voulait explorer, apprendre le français et l'espagnol, apprendre des cultures différentes.
Est-ce que vous pensez qu'elle avait plus de chances de vivre une vie heureuse en voyageant, en quittant l'Afrique du Sud, que dans la vie qu'elle vivait à Soweto? Allô?
Hello.
Yeah. Do you think she has more chances to live a happy life in France than in South Africa?
If at all she can get what
she
wants to do.
Si, au moins elle peut avoir ce qu'elle veut en France. Je pense qu'elle peut avoir une vie meilleure. Je pense qu'elle a plus d'attache en France qu'ici.
Est-ce qu'il lui arrive de vous aider financièrement? Est-ce qu'elle vous envoie de l'argent?
Oui, oui.
Vous êtes très proche de Mbusso, le fils de Meza. Comment ressent-il l'absence de sa maman?
Elle lui manque beaucoup parce qu'il demande toujours quand elle va revenir. Mais maintenant, il est très proche, très attaché à moi. Il est plus attaché à moi qu'à Meza parce que je l'ai élevé.
Vous êtes partie en 98, c'est-à-dire donc la première fois, c'est-à-dire 4 ans après l'élection de Mandela.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi, alors vous m'avez expliqué pourquoi vous êtes venue en France, mais oui. Pourquoi vous avez décidé de partir de ce pays qui commençait tout juste à respirer, quoi, et où vous, en tant que femme noire, vous aviez la chance de vous construire une vie, une belle vie aussi là-bas, une vie de femme libre là-bas.
Voilà.
Et pourtant, vous avez décidé de partir quand même.
Oui. C'est vrai. Moi, j'ai décidé de partir à cette époque-là parce que c'est là que j'ai trouvé ma liberté d'explorer le monde, pas seulement l'Afrique du Sud. Moi, je voulais explorer le monde, apprendre ce qui est différent parce que j'ai cette chance-là de le faire. Mes ancêtres, ils n'avaient pas. Ma grand-mère n'a pas vu l'Europe. Mon grand-père n'a pas vu l'Europe, n'a jamais vu le français, peut-être même pas entendu parler de la langue française ou le pays, la France. Et moi, j'avais cette opportunité, cette chance de le faire. Et pourquoi pas?
Alors, je vais vous poser une question un peu, pas facile, mais est-ce que vous aviez donc une famille, vous aviez surtout un fils, vous êtes quand même une maman. Est-ce que c'est pas un peu égoïste d'être partie et d'avoir laissé votre fils derrière? Parce qu'aujourd'hui, ça fait, grosso modo, ça fait une douzaine d'années que vous n'élevez plus votre fils.
Oui.
Est-ce que c'est pas un peu égoïste?
Un tout petit peu, oui. Je peux dire, je peux pas tout à fait dire non, il n'y a pas un côté égoïste, non. Oui, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de quelque chose qui brûlait à moi de découvrir le monde. Il fallait que je le fasse absolument. Si je n'avais peut-être pas fait, j'aurais eu peut-être des regrets de vivre quelque chose qui est vraiment un manque qui est à moi.
Est-ce que votre vie actuelle vous permet d'aider, par exemple, financièrement votre maman dans l'éducation de votre fils?
Oui. J'ai contribué beaucoup financièrement dans la vie quotidienne de mon fils. Beaucoup. Jusqu'à peut-être moi, je me prive de beaucoup de choses pour que lui soit bien. Vous savez, moi, j'ai une vie quand même, comme vous voyez, c'est pas une vie en rose. C'est très minimum. J'ai pas tous les luxes du monde que j'aimerais avoir parce que justement je veux que tout ce que je fais, tout ce que j'ai, c'est mon fils qui profite. Moi, je profite rarement de ce que j'ai.
Vous profitez de votre liberté de découvrir le monde. Est-ce que ça vous rapporte, vous l'envoyez à votre fils?
Voilà.
Monsieur, bonsoir.
Chanteuse. Merci d'avance pour votre soutien, gentillesse. Et bonne soirée à vous. Si.
I don't want to wait in vain for your life. And I don't want to wait in vain for your life. And I don't want to wait in vain for your life. And I don't want to wait in vain. And I don't wanna wait in vain. And I don't wanna.
Magnifique ça, j'adore.
On passe devant l'Opéra Garnier.
Ouh, oui. Bah, je suis pas une chanteuse d'opéra, mais j'aimerais bien un jour. Bon, ça faisait partie de mes rêves, hein, pour aller voir les grands spectacles. Je me suis mis encore dans ma tête, dans mes rêves, que les jours où je trouverai mon prince charmant, c'est quand on va faire toutes ces choses grandeuses de Paris.
Allez. Donc, il faut aller à l'opéra.
Et puis, bizarrement, j'ai jamais voulu monter la tour Eiffel jusqu'en haut, parce que je me suis dit, avec ma robe blanche de mariée, avec mon mari, mon prince charmant, on va monter comme ça. Mais ça va se faire toujours. Moi, je lâche pas l'affaire dans mes rêves. Hein. Tout ce que j'envisageais dans ma tête, dans mes rêves, dans ma vie, va se passer. Oh, regarde-moi, Place Vendôme, j'adore cet endroit. J'adore Epson. C'est magnifique. Magnifique. Hôtel Ritz, c'est où? Je ne vois pas. Mais je sais que c'est par ici. Ah, c'est derrière nous? Ok. Bon, tu viendras un jour?
À l'Hôtel Ritz?
Oui.
Avec vous?
Mais, non, mais rends visite quand je sais.
When I was a little child, I dreamed to be a princess. When I tried to be this princess, I dreamed to meet a prince. When I was this princess, I dreamed to be like a queen. When I was this princess, I dreamed to meet a prince.
Traveling from the north to the south, southern starry south to the east, east to the west, we're all looking for our the best. Traveling from the south to the north, northern starry south to the
allons-y,
east.
Allons-y, allons-y. Ah ouais, carrément, vous enregistrez tout de suite. On est là dans le dixième, dans le petit écart du dixième. Donc, comment vous avez rencontré Meza?
Je l'ai rencontré dans le métro, comme tout le monde.
Ah, okay. Moi, je n'ai pas rencontré dans le métro. Hein.
Non, vous l'avez rencontré où?
Alors, j'ai pris des cours de gospel avec un certain Marcelin Ajavon, qui est d'origine togolaise, qui nous a fait des cours de gospel un petit peu africains. Et voilà, elle est venue au cours, donc on s'est liés d'amitié, parce que c'est une personne qui est facile d'approche, qui donne beaucoup d'elle-même aux autres, donc c'est super simple de lier le contact avec elle, quoi. Elle donne beaucoup d'amour, voilà.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a 10 ans à peu près.
Et en 10 ans, est-ce que vous l'avez vu changer? Est-ce que vous avez donc du coup assisté à ses décisions, à la décision qu'elle a prise de quitter l'Afrique du Sud pour venir s'installer ici?
Elle est toujours très partagée entre son pays d'attache, qui est l'Afrique du Sud, où elle a sa famille, ses sœurs, son fils, sa mère. Et à la fois, c'est quelqu'un qui voyait Paris comme l'Éden, l'Éden artistique pour peut-être sa carrière musicale. Et donc, elle avait besoin aussi de liberté, peut-être de couper les plombs avec toute la famille et de repartir pour une nouvelle vie en Europe et à Paris. Voilà.
Et vous avez l'impression qu'elle l'a trouvé, son Éden musical ?
Je sais pas. En tous les cas, je sais qu'elle est toujours épanouie quand elle chante et elle est libre surtout de chanter. Voilà, dans le métro, pour elle, c'est, C'est évidemment, c'est aussi peut-être pour survivre, mais en tous les cas, elle chante parce qu'elle aime ça, elle aime donner aux autres. Donc voilà.
Anouchka, est-ce que vous pourriez nous décrire Meza physiquement ?
Alors pour moi, c'est la reine, la Queen Africa par excellence. Voilà, c'est une magnifique femme d'origine sud-africaine, avec des yeux en amande, avec une belle bouche pulpeuse, dans toute sa splendeur. Voilà, pour moi, c'est une belle femme. Et puis intérieurement, elle est encore plus belle. Donc voilà.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour,
messieurs.
Ça va? Ça va, Ernest? Oui, ça va. Bonjour, madame. Café Verdot. Ok, Meza, est-ce que vous pouvez nous dire où on est?
Ah oui, on est dans un café, mon préféré. Une brasserie, en fait. Du coin du 15e. Juste en face du métro. Et puis, je connais quand même pas mal du monde, le serveur. Souvent, qui sont là, je le connais. Et puis, ici, c'est où je mange les hot dogs. Quand j'ai faim. Parce que j'aime beaucoup le hot dog.
Qu'est-ce que vous avez pu constater comme différence de culture entre la France et l'Afrique du Sud?
Waouh! Premièrement, c'est le froid. Il fait très, très froid. Les gens sont très différents. Les gens sont très gentils, mais ils prennent du temps pour être gentils. Nous, par nous, on est un peuple très chaleureux, très ouvert d'esprit. On aime les gens. On aime la vie.
C'est plus facile de parler aux gens dans la rue, par exemple, en Afrique du Sud qu'à Paris?
Oh oui, bien sûr. On se fait des amis vite fait en Afrique du Sud. Ça veut dire on vient dans un café, on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je crois, j'ai gardé ça à moi. Des fois, je me trompe. J'aimerais tellement parler aux gens. Et puis les gens, on ne la connaît pas.
Les gens à Paris ne sont pas aussi faciles d'accès?
Non, pas du tout. Non.
Depuis 3 ans, vous êtes en France, vous êtes, je suppose, en situation régulière. Mm-hmm. Quel genre d'autorisation vous avez pour être en France?
Non, j'ai un récépissé de 3 mois chaque fois pour être ici. Chaque fois, 3 mois, je fais mes démarches de demande et chaque fois, c'est 3 mois. Donc, ça ne me donne pas le temps suffisant pour réaliser beaucoup de choses. D'ailleurs, je dois aussi dire que j'ai raté quand même pas mal de choses qui se passent en Afrique du Sud, surtout avec les changements de l'apartheid, de maintenant d'être libre, de pouvoir de faire des choses. Mais il fallait que j'y vive ma vie à moi, que moi je voulais. Et c'était de venir en France. Et puis la France, c'était pas la dernière. Être en France, faire ce que j'ai à faire ici, aller à Hollywood, tenter ma chance là-bas, pourquoi pas. Moi, je vois grand dans ma vie, je vois le monde, comme j'ai dit, je ne vois pas que l'Afrique du Sud, je ne me limite pas.
Est-ce que vous lui connaissez des défauts, Ameza?
Elle a un petit égo surdimensionné, parfois, et voilà. Non, mais comme toutes les filles qui font du chant, elle est peut-être parfois... Elle peut se prendre pour une diva, mais elle sait rester humble aussi. Donc, elle a un peu cette ambivalence. Voilà. Et puis, bon, bah, c'est pas Whitney Houston aujourd'hui, mais ça ne serait tardé.
Est-ce que vous avez vu ses rêves changer?
Peut-être qu'elle s'attendait à signer avec une grosse boîte de production, ce qui n'est pas encore arrivé. Mais elle a quand même travaillé pour le Salon du Chocolat. Et donc, non, vous étiez peut-être pas au courant. Donc, oui, elle a été recrutée pour un groupe au Salon du Chocolat. Et donc, ils ont créé une chanson qui s'appelait, je sais plus, Sexy Choco ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait une Brésilienne, une Espagnole, une Sud-Africaine. C'était un peu le groupe, un peu melting pot. Et c'était fabuleux sur scène. Elles étaient habillées toutes en couleur chocolat. Et elle donne tellement d'énergie. Elle a une voix tellement surprenante et forte à la fois. Un peu comme comme Ella Fitzgerald, je sais pas, moi je la compare souvent à cette femme là. Donc voilà.
Hey.
La diva est arrivée.
Oh. Toi, je veux
perdu de vue. L'émission est là. On oh, s'est retrouvés enfin.
Oui. Tu voyages pas, ton chéri?
Non, bah oui, mon petit chéri va venir pour les fêtes de Noël.
Il est toujours à Marseille.
Et on va peut-être passer Noël ensemble alors.
Pourquoi pas?
Parce que, oui. Parce que normalement, je vais faire un truc chez moi, donc on va voir. Ouais.
Qui vient?
Bah écoute, Fred, Fred, G, toi, certainement, Tony, oui. Peut-être Mehdi, peut-être.
Comment il s'appelle ton pote haïtien aussi, il vient?
Klaus. Klaus. Van der Stein. Oh.
Les divas des hommes.
Vous iriez bien tous les deux ensemble.
Ah non. Non, je pense pas. Il est compliqué, moi aussi, alors. Chaque fois, il prend ma place et j'ai horreur de ça. Quand je suis chez toi, c'est lui. Quand lui, il est là, c'est lui. C'est
ah
lui,
oui.
Non.
Oui, il faut que tu sois la princesse de la soirée. Il hein. Faut toujours qu'elle ait une robe plus belle, des fossiles plus beaux, du plus beau maquillage, une plus belle coiffure.
Non, non, ça va. C'est super. Excuse me, I've just met someone I know.
Bonjour, monsieur.
Ah, ça, c'est un ami, Pasteur Samuel.
Pasteur Samuel Anjou. En même temps, professeur de sciences politiques. Dans plus de 20 ans à l'université américaine. Et écrivain également. Voilà.
On est en train d'enregistrer un documentaire sur Meza, sur sa voix, sa vie, etc. Et écoutez, à chaque moi, fois qu'on tout, fait 10 mètres, on croise tout, quelqu'un qu'elle connaît.
Tout ce que moi je souhaite, c'est qu'elle a véritablement une voix superbe. D'accord. Moi, j'apprécie énormément. Je souhaite qu'elle puisse quand même commencer à chanter ce qu'on appelle le véritable gospel, entre guillemets. Non, je dis bien le véritable gospel pour le peuple français.
Vous chantez des gospels?
Elle a déjà chanté dans mon assemblée.
Je veux entendre ça.
D'accord. Ouais. Tout à l'heure, non?
Tout à l'heure, tout de suite. Vas-y.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Le surnom de l'Afrique du Sud, c'est la nation arc-en-ciel.
Oui.
Comment vous trouvez Paris au niveau arc-en-ciel?
Est-ce que les gens se mélangent, c'est ça? Par rapport à l'Afrique du Sud, je pense beaucoup plus, oui. Au niveau les gens, racialement, se mélangent facilement par rapport à nous. Nous, on est quand même gardé ces trucs black avec black. Blanc avec blanc, mais ici je vois souvent de relations, ce qu'on dit, interraciales.
Est-ce que vous, par exemple, vous auriez une relation amoureuse avec un blanc?
Il n'y a pas de problème si c'est Brad Pitt. Non, je rigole.
Bon, mais admettons que ce soit pas Brad Pitt, que ce soit...
Non, si ça soit un beau mec bien, qui me plaît, oui.
Ouais.
Oui. Au début, j'ai trouvé le mélange de gens entre blanc et noir, c'était trop pour moi. Pour moi, au début, c'était vraiment choquant, c'était waouh. Ok. Oh, ça se fait, c'est possible. Historiquement, on a quand même resté dans nos têtes... un peu enfermé. Et puis peut-être ça va prendre un peu de temps pour que ça soit vraiment active. Parce que même quand je pose la question à mon fils, est-ce que tu sortirais avec une blanche, lui dit non. Et puis vraiment pour mon fils, les choses sont ouvertes. Hein. Il a vraiment, lui, il n'a pas vécu ce que nous on a vu, mais je pense que c'est juste dans la tête. Hein.
Alors vous avez dit que quand vous êtes arrivé à Paris, de voir les gens qui se mélangeaient, des couples mixtes comme ça, c'était presque choquant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué quand vous êtes arrivé à Paris?
Ah oui, la liberté du sexe.
Racontez-nous ça. Comment c'est la liberté du sexe? On ne voit pas ça dans les rues non plus.
Non, mais les gens parlent facilement de ça, c'est partout. Bon, les gens s'embrassent facilement dans la rue. C'est là-bas, bien sûr, ça existe, mais c'est caché. Mais ici, c'est très libéral. Les gens s'embrassent, ils marchent main à main. On voit les choses qui parlent de ça. La télé parle de ça facilement. Je pense beaucoup de Sud-Africains qui sont passés par Paris. Et après ça, ils revivent cette liberté d'exprimer facilement sexuellement.
Everywhere I go, I'm gonna let it shine.
Moi, je suis là pour les donner, pour les faire du bien, pour bien sûr, c'est pour aussi gagner ma vie, mais c'est surtout pour, c'est plutôt thérapeutique pour les gens qui entendent et pour moi. J'essaie de ne pas trop rester longtemps dans les wagons, mais sauf si je suis quelqu'un me demande pour continuer, pour faire une autre chanson pour eux. Oui, j'essaie d'être bien précise, une chanson ou deux, et puis je passe dans notre wagon parce que j'aime pas que ça saoule les gens, surtout quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas envie d'entendre ça. Il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas, c'est normal. Mais en général, les gens sont très, 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 très... ils m'encouragent beaucoup, me disent que j'ai beaucoup de courage de faire ça. Eux, ils n'oseraient pas, mais des fois, ils m'encouragent de continuer. Il y en a, bien sûr, qui font des blagues, qui font n'importe quoi. Il y en a qui chantent avec moi. Il y a toutes sortes de gens qui font des choses différentes.
Une chanson sur deux, à peu près, dans votre répertoire du métro, c'est du gospel. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes croyante?
Oui, je suis croyante. Je crois en Dieu. Dieu, c'est très, très important pour moi. C'est ce qui me donne le courage de continuer, de vivre. Le gospel, justement, je le chante. Parce que pas seulement c'est beau à entendre, mais c'est aussi... les chansons de gens qui croient du gospel. Le gospel, c'est l'évangile. Ça parle bien sûr de Dieu, de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, de la parole, la parole qui est la Bible. Voilà. Les dimanches, je vais à l'église, l'église américaine. Même depuis chez moi, en Afrique du Sud, j'allais à l'église Grace Bible Church. Puis ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne, ça me donne beaucoup de force de m'élever, de dire ça va aller.
Ma dernière question, Joyce, qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui à Mesa qui va vous écouter.
Je veux dire à ma fille que je l'aime tellement. Elle me manque beaucoup et je souhaite que sa carrière avance de plus en plus loin chaque jour. Je lui souhaite le meilleur dans sa vie et sa carrière.
Et je ne sais pas si Mbusso est près de vous pour le moment, mais est-ce que vous pensez qu'il lui dirait autre chose, qu'il lui dirait quelque chose?
I just sent him to the shop now, 10 minutes.
Je l'ai envoyé au magasin à l'instant,
so
il y a 10 minutes.
Tell him that she loves her
Mais je crois qu'il dirait qu'il l'aime et qu'elle lui manque en tant que mère. Parce qu'une mère, c'est une mère, vous savez. Mais j'ai pris la place de Meza. Mbusso m'aime, il aime Meza aussi, mais il est plus attaché à moi maintenant. Aujourd'hui, Mbusso voit plutôt Meza comme sa sœur et moi comme sa mère.
Vous avez l'air un peu fatigué, un peu triste peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
Oh ouais, oui. Ça m'arrive des fois, des journées comme ça, parce que mon fils me manque beaucoup, ma famille me manque beaucoup. J'ai de souvenirs, surtout maintenant comme il y a les fêtes qui s'approchent. Et puis, je pense aussi au soleil en Afrique du Sud. Et puis, moi, que des fois que je ne sois pas là pour faire partie de toutes ces choses-là, ça m'énerve, ça me rend triste.
Vous n'avez pas peur du jugement des gens, parce que on peut considérer que vous avez un peu abandonné votre fils pour vivre votre rêve. Est-ce que vous n'avez pas peur du jugement des gens?
Surtout si je ne réussis pas dans ce rêve. Mon retour, ça va être très, très, très dur, mais c'est la vie. Hein. Les choses arrivent dans la vie.
Et vous n'avez pas peur que votre fils vous reproche un jour de l'avoir laissé derrière vous?
Bien sûr, il m'a fait déjà une fois ou deux fois. Donc, ça lui fait beaucoup de mal. Hein. Et puis, cette année, il m'a dit, « Maman, si je réussis à l'école cette année, mon souhait, c'est que tu reviens, tu retournes vivre avec moi. » Donc.
Et qu'est-ce que vous lui avez répondu?
J'ai dit, « Oui, je le ferai. »
Donc là, si votre fils réussit à l'école cette année, vous repartez en Afrique du Sud pour l'aider à devenir un adulte?
Oui, pour l'idée de faire une vie avec lui, de vivre avec lui.
Ce serait une façon de renoncer à vos rêves, non?
Oui, une partie. Ça va me faire très mal. Très, très mal. Mais je dois aussi reprogrammer mes rêves et ma vie. Pour mon fils et pour ma vie aussi.
Pourquoi finalement votre vie à Paris, ça n'a pas comblé toutes vos attentes? Ça n'a pas répondu à tous vos rêves?
Non, pas vraiment, non.
Qu'est-ce qui vous manque?
J'aimerais bien avoir un diplôme dans la langue française. Ça me manque. C'est surtout ça. Plus que tout, et bien sûr, pour aussi pouvoir chanter en français. Et j'aurais aimé faire l'école pour ça.
Vous êtes donc, du coup, vous allez passer encore quoi? Un an en France à peu près, un peu moins peut-être, mm-hmm. si vous rentrez mm-hmm. plus ou moins mm-hmm. à la moitié de l'année 2011 en Afrique du Sud. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez faire des mois qui vous restent à Paris?
Vraiment, j'aimerais bien toujours continuer à chanter parce que chanter, c'est pour moi la façon de m'en sortir dans mes galères de la vie quotidienne.
Mesdames, messieurs, comme vous savez, on s'approche de fête de Noël. C'est bientôt Noël. J'aimerais vous chanter une belle chanson, Noël. I wish you a Merry Christmas. Je vous souhaite tous de bonnes fêtes. Bonne soirée à vous tous. I wish you a Merry Christmas. C'est que les gens qui connaissent la chanson sont les bienvenus de le chanter avec moi. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
C'était sur les docks, des rues de Soweto au couloir du métro, le chant libre de Meza. Réalisation François Test.
prise de son Pascal Baudin, Kamal Salifou. Attachée de production Laure-Hélène Plancher, Christine Gage. Merci à Nabila Hamel. Merci à Joyce, Anouchka et Meza. Un documentaire de Meta Chiteya.
Vous pouvez réentendre Meza sur le site de l'heure du documentaire. Demain à 17h, Olivier Chomel nous promet fouine, renard et chauve-souris. Sur France Culture, c'est l'heure de la chronique de Céline Duchesnay.